Bonjour, bienvenue dans le bistrot de la vie. Quel que soit le pays, le diocèse, les circonstances dans la vie d'un prêtre, le jour de son ordination demeure et demeurera unique, difficilement comparable à d'autres étapes. Mes invités ce matin, le père Dominique Chéreau, bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes religieux de Saint-Vincent de Paul, curé depuis 9 ans de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil à Paris. Monsieur l'abbé Christian Melchor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aumônier du collège Stanislas à Paris. Bernard Riviolet, vous êtes un laïc, très investi dans le scoutisme. Vous êtes administrateur d'un collège en région parisienne et commissaire de province en Île-de-France.
Bonjour.
Bonjour. Au téléphone, le père Georges Collomb. Bonjour mon père, vous êtes vicaire général des missions étrangères de Paris.
Oui, bonjour.
Et puis, dans quelques instants, nous retrouverons l'abbé Olivier Foulon, qui a été ordonné l'année dernière à Nanterre. Ma première question est pour vous, père Dominique Chéreau, oui. L'ordination. Bon, ce jour-là, quel souvenir vous en gardez?
Je garde un souvenir absolument unique. J'étais comme dans un autre monde, et j'étais bien sur la terre. Surtout au moment de la grande prostration, on sent tellement que ce qui va se passer nous dépasse complètement.
J'ai raison de dire que c'est incomparable. Jusqu'à présent, dans votre existence,
je n'ai jamais
ressenti une émotion, une force pareille.
Aucune. On se sent vraiment pris par Dieu. On sent vraiment que cet appel, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On sent tellement qu'on a été appelé par Dieu et qu'il a, il va se passer, il va nous donner la grâce de l'ordination. C'est absolument unique. Et puis on sent qu'on ne s'appartient plus du tout.
Père Melchor, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
C'est étonnant, c'est d'entendre ce que dit le père, mais c'est un peu la même chose, sauf que ça parut vraiment 5 minutes, alors que c'est une célébration qui dure 2h30 par exemple. Et voilà, ça, c'est un moment où effectivement le temps n'existe plus.
Ça ressemble à d'autres moments que vous avez vus dans la vie de laïque, par exemple quand vous célébrez les mariages, ou bien c'est encore autre chose?
Personnellement, je trouve que c'est encore autre chose. C'est vrai que les gens sont très émus le jour des mariages. Moi, je suis religieux. Ce qui a ressemblé le plus, c'était ma profession perpétuelle, quelque temps avant mon ordination. Mmh. C'est un peu du même ordre.
Père Georges Collomb, je vous pose la même question. Je rappelle que vous êtes vicaire général des missions étrangères de Paris. Le jour de votre ordination, quel souvenir vous conservez?
Oui, eh bien, je garde le souvenir déjà de l'ordination diaconale où j'ai reçu ma destination missionnaire pour le monde chinois. Et pour moi, c'est très émouvant parce que c'est une surprise tout de même, même si les bruits courent, vous savez, il y a des rumeurs, mais on peut très bien être envoyé en Chine, comme on peut très bien être envoyé en Thaïlande ou à Madagascar, donc à des milliers et des milliers de kilomètres, vous voyez. Donc c'est une grande émotion ce jour-là déjà. Et le jour de l'ordination sacerdotale, alors là, c'est le jour du don total, du don radical. On s'engage à devenir prêtre. Et pour l'éternité, et alors c'est dans la fidélité, et c'est quelque chose de magnifique. Et j'écoutais la question que vous posiez au père Melchor, que je salue, en comparant avec le sacrement du mariage. Bien sûr que dans le sacrement du mariage, les époux s'engagent aussi dans notre Église pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Et il y a aussi une dimension de radicalité extraordinaire. Mais il y a dans la vocation sacerdotale cette dimension d'absolu, voyez-vous, de vocation surnaturelle, comme on dit, et quelque chose de magnifique. C'est ce don complet, finalement, qui donne une liberté totale à l'homme et au prêtre.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à vous tous, évidemment, c'est la question des vocations. On parle de crise des vocations, mais le mot crise, on l'utilise finalement à peu près pour tout et dans toutes les phrases, sur tous les sujets, donc on va peut-être oublier cela. Est-ce que aujourd'hui vous ressentez un sentiment d'inquiétude par rapport à la manière dont l'appel est entendu?
Alors personnellement, moi j'ai une idée là-dessus. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de crise des vocations. Ça va peut-être étonner beaucoup d'entre vous, mais Dieu appelle toujours des jeunes à le suivre de plus près. Ce qui est plus difficile dans une société où on a beaucoup de peine à s'engager, c'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans tous les domaines, c'est la réponse de l'homme. Parce que Dieu appelle, mais est-ce que le jeune est mis en condition de répondre à un tel appel? Alors je pense que c'est là où il faut agir pour que l'éclosion des vocations, il faut à tout prix qu'il y ait des institutions, qu'il y ait des lieux, qu'il y ait d'abord évidemment la famille. ensuite des écoles, ensuite des institutions comme le scoutisme, le patronage, d'autres formes de groupements de jeunes, où les jeunes soient vraiment mis en condition de répondre oui à l'appel. C'est-à-dire qu'ils aient autour d'eux des exemples de vraie vie chrétienne, qu'ils aient aussi une possibilité d'avoir un prêtre qui soit donné entièrement à eux, voyez, qu'ils soient toujours disponibles pour les écouter, répondre à leurs questions au moment où ça va pas. Et enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le sacrement de pénitence, de réconciliation et la direction spirituelle. C'est la condition pour qu'il y ait un renouveau des vocations. Et ne pas avoir peur d'appeler.
Bernard Ribiollet, je vais vous poser la même question. Alors vous êtes totalement investi dans le mouvement du scoutisme, en tout cas c'est une grande partie de votre vie aujourd'hui. Vous êtes sensible à ça, au fond l'appel il est là, mais encore faut-il qu'il y ait des structures, et notamment pour les jeunes, qui permettent d'ouvrir les yeux et les oreilles de manière à l'entendre cet appel.
Alors moi je crois que l'intuition du Père Sevin en mettant en place le scoutisme catholique en France fait que dans le mouvement scout, on n'a pas vraiment senti cette baisse des vocations. Parce que la force du mouvement scout, c'est une proximité à la fois avec les religieuses et les religieux, c'est la présence d'un conseiller religieux en permanence, et puis ensuite, il n'y a pas de honte à vouloir dire qu'on veut être religieuse, ou prêtre, ou religieux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir dans le mouvement scout, et un jeune peut totalement s'épanouir. Et ensuite, il y a une proximité avec Dieu, il y a l'Angélus le matin, la journée est ponctuée par des prières quotidienne. Donc, quand bien même on pourrait être fragilisé à un moment dans sa vie de foi, il y a toujours le groupe qui permet de rattraper entre guillemets les choses. Donc pour moi, j'ai failli rentrer à l'abbaye bénédictine à Hautecombe, mais c'était cette grande proximité avec mon conseiller religieux, avec les moines, pendant les camps scouts, etc. On voyait des gens rayonnants, des moniales rayonnantes. Ça donne envie. Et je crois que c'est très important, ça.
Comment qualifier le dynamisme du scoutisme en France? Disons un petit mot là-dessus, à ce stade. Marche toujours aussi bien. Dans une émission la semaine dernière, c'était le 18 juin, à l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, en regardant l'engagement catholique aux premières heures, juste après la défaite, on s'aperçoit que le scoutisme, déjà à l'époque, c'était un autre type d'appel, mais avait fourni les premiers bataillons de ceux qui répondaient. Alors, appel contre appel, en quelque sorte, ça continue, ça?
Moi, je suis intimement persuadé que ça continue, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que nos jeunes, ils ont soif d'absolu. Et cette soif d'absolu, le scoutisme l'entretient. Il y a d'autres organismes qui l'entretiennent. Chaque mouvement a son charisme. Mais le scoutisme entretient une soif d'absolu. Vous avez à chaque étape de la vie d'un scout des devises qui permettent de donner une ligne de conduite. Le petit louveteau de notre mieux, de 8 à 12 ans. Le scout, être prêt. Et puis après, à 17 ans, rester en service. Rester en service. Et tout est tourné et orienté vers Dieu, vers l'amour du prochain. C'est ça qui est extraordinaire.
Père Malcor, je rappelle que vous êtes aumônier du collège Stanislas à Paris. Vous partagez cette idée, au fond, que le mot crise, on l'utilise d'une manière tout à fait excessive, et qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste, comme le sont certains de mes confrères dans la presse, par exemple, où on lit des titres très alarmistes, avec des chiffres qui, effectivement, s'il s'agissait de la courbe du chômage, seraient tout à fait inquiétants, mais dans ce domaine, on ne peut pas utiliser les mêmes critères que pour l'économie ou pour la consommation.
D'une part, on ne peut pas utiliser les mêmes critères. Je partage le même sentiment. La crise, c'est plutôt on manque de chrétiens. On manque de familles chrétiennes, de gens qui aiment le Christ, qui veulent vraiment vivre avec lui. Mais l'exemple du scoutisme, ou des patronages, ou des écoles, ou d'autres, je crois que c'est vraiment très important, c'est qu'il y a une liberté, s'il y a effectivement cet appel, de relais. Ça manque. Quand vous voyez par exemple un ensemble de jeunes, je prends des exemples idiots, mais tant pis, qui vivent en concubinage, eh bien, parce que jamais on leur parle de la beauté du mariage, ou alors ils voient ça à l'extérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose par rapport à l'engagement de prêtre.
Ou en fait, le contraire, on leur parle des inconvénients du mariage et exclusivement de cela.
Ou on leur parle pas du tout, surtout.
Oui.
C'est-à-dire que ça, je pense qu'on leur parle pas du tout. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir à la fois des jeunes qui demandent à rencontrer un prêtre parce qu'ils veulent avoir un père spirituel. Moi, je vois dans mon école, c'est régulier. Certains qui affirment leur vocation, je voudrais être prêtre, je voudrais ceci, là. Je vois des étudiants de prépa qui ont pour une vocation de religieuse qui disaient, moi, je veux être dans une abbaye bénédictine. Une autre qui vous demande la permission de rentrer dans telle abbaye, c'est quand même impressionnant. mais parce que ils ont une liberté de pouvoir, exactement l'exemple que l'on prenait dans le scoutisme en détaillant ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont une liberté de pouvoir vivre leur vie chrétienne, de pouvoir parler, de pouvoir prier, de pouvoir effectivement avoir un père spirituel, pouvoir rencontrer le Christ dans les sacrements, etc. C'est ça aussi.
Père Georges Collomb, je rappelle que vous êtes vicaire général des missions étrangères à Paris. Vous avez ce regard un peu mondial sur cette même question de l'appel et des vocations. Vous diriez, quand vous regardez la France et puis toutes vos autres expériences à travers la planète, bon, on va pas faire un classement, n'est-ce pas, le football s'en charge, mais comment vous sentez la France là en ce moment par rapport aux autres, avec votre regard à vous des missions étrangères?
Oui, eh bien, voyez-vous, moi, je ne suis pas pessimiste, parce que quand je vois l'Église de France, alors bien sûr, y a-t-il crise, faut-il appeler le phénomène actuel crise ou pas crise, à mon avis, c'est un faux problème. Mais comme le disait, l'ont dit plusieurs intervenants, le problème, c'est pas que le Seigneur n'appelle pas, c'est que la foi n'est pas transmise aussi bien et aussi abondamment qu'elle l'était autrefois. C'est ça le problème. Regardez les effectifs des enfants qui sont catéchisés. Et ça, c'est alarmant, hein. Mais à côté de ça, regardez en pourcentage le nombre de jeunes qui disent oui à l'appel du Seigneur, soit dans la vocation sacerdotale, diocésaine, missionnaire, ou dans la vocation religieuse, et puis les jeunes filles aussi. Mais c'est beau! C'est bon, moi je vois parmi nos volontaires qui partent en Asie ou dans l'océan Indien, et dont je signale au passage pour notre ami du scoutisme, plus de la moitié ont fait des expériences de scout. Hein, quand le scout est vraiment une école d'engagement, vous voyez, et de don de soi. Eh bien, je vois parmi eux, chaque année, il y en a qui rejoignent non seulement notre institut, mais plus nombreux encore, les séminaires diocésains pour leur diocèse, voire la vie monastique. Donc, le Seigneur continue à appeler. Notre problème, c'est que nous vivons dans une société sécularisée, où la foi est mise entre parenthèses. Alors, lorsqu'on compare, je reviens à votre question, avec ce qui se passe à l'étranger...
Voilà, la Coupe du Monde des vocations, quel est le classement?
Alors, le classement, il est peut-être pas pour nous, mais je ne répondrai pas à la question comme ça. Mais je vous dirais que nous vivons dans des sociétés où l'Inde, par exemple, et d'autres pays, le Cambodge, ils sont des sociétés éminemment religieuses. Ce ne sont pas des sociétés laïques. Ce ne sont pas des sociétés sécularisées. Par conséquent, la religion a sa place. Dieu a sa place. Hein? Ou bien la sagesse a sa place. Par conséquent, le fait d'affirmer sa foi, même si on est minoritaire, sauf dans certains pays, bien sûr, où l'Église est persécutée, ça existe encore, hein, n'est pas surprenant. Hein? Tandis que chez nous, alors que nous sommes la fille aînée de l'Église, et quand on est la fille aînée de l'Église, on le reste toute sa vie, hein, même si on est un peu ridé. Et ça ne donne pas beaucoup de droits. Ça donne des devoirs, en fait. Hein? Alors qu'on compare, c'est ça, déjà.
Est-ce que vous faites une différence entre vie spirituelle et religion? Je veux dire par là que vous pouvez avoir des sociétés spirituelles qui ne sont pas forcément religieuses. Je pense à l'Amérique du Nord, en particulier, en disant cela.
Oui, alors moi, je suis mal placé pour vous parler du continent américain, mais prenez, par exemple, le bouddhisme.
Oui.
On dit que le bouddhisme est une religion, mais en fait, c'est une religion, il n'y a pas de Dieu, quand même. Donc le sens relier Dieu et l'homme n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Hein. Il y a la recherche d'une sagesse, hein, d'une nirvana. Il n'y a pas de Dieu. Donc on peut dire qu'il y a une vie spirituelle, mais on ne peut pas dire qu'il y a une croyance en Dieu. Voilà ce que je voulais dire par là. Hein. Mais mon propos, c'est de dire que dans ces pays-là, si vous voulez, il est naturel, hein, de devenir religieux. Il est naturel de devenir prêtre lorsqu'on est catholique, ou de devenir religieux. Hein? Et je dirais même que, en proportion, les vocations sont plus nombreuses. Prenez l'Indonésie, par exemple, prenez le Vietnam, où l'Église est persécutée. Ce qui montre bien, ce que disait tout à l'heure l'intervenant, les jeunes de toute la planète, et de toujours, et grâce à Dieu, auront besoin d'absolu. Hein? Le monde apparent, le monde tel que nous le voyons, avec ses valeurs ou ses fausses valeurs, ne satisfait pas leur quête de sens. Qu'est-ce pas la quête de sens de la jeunesse? Les jeunes ont besoin de se donner. Et ils trouvent dans l'évangile et dans l'enseignement de l'Église, hein, ils trouvent un sens à leur vie. Et ça, c'est valable aujourd'hui, ça sera valable demain. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, voyez.
Bernard Rébiollet, vous souhaitez intervenir? Vous avez entendu peut-être, avant que je vous donne la parole, le mot persécution a été prononcé. Parmi vos scouts, là, c'est une notion quand même, ce privilège que nous avons de vivre en France dans un pays où cette question de persécution, de mesures hostiles, violentes ne se pose pas. Ils sont conscients de ça?
Je suis pas certain qu'ils le soient vraiment. Justement, peut-être qu'il faudrait que nous travaillions justement sur ce sujet-là. Je pense l'intuition de Baden-Powell, c'était aussi d'attirer des gens des quartiers défavorisés. Et peut-être que le scoutisme, on a quelques exemples à travers, par exemple, le Rocher ou autre. Il faudrait peut-être que le scoutisme, on aille un peu plus, justement, dans les milieux, même en France, où le catholique peut être persécuté. Mais je voudrais revenir sur un point, c'est l'exigence. Moi, j'ai repris du service il y a un an et demi, et je me suis replongé dans le cérémonial des guides des scouts d'Europe, que j'avais un petit peu perdu de vue depuis un certain nombre d'années. Les exigences sont toujours les mêmes. Et moi, c'est le message que je voudrais faire passer, c'est que les jeunes ont besoin d'exigences. Il n'y a pas de compromis. Le cérémonial scout est le même depuis toujours. Il n'y a pas de compromis. Donc dans la catéchèse, dans les exigences qu'on peut avoir au point de vue de sa vie spirituelle, je crois qu'il faut être conscient qu'il y a des piliers, que ça doit rester véritablement des piliers très solides, et c'est là-dessus que nos religieuses et nos religieux doivent s'appuyer pour attirer nos jeunes.
Le désir jeune, d'absolu sans fanatisme, on est bien d'accord.
Désir d'absolu sans fanatisme, mais il n'y a pas de compromis. Ils ont cette soif d'absolu. On ne peut pas à chaque fois leur dire « Oui, mais alors si tu fais ça, tu vas peut-être machin, etc. »
Non. Et c'est long de les décevoir, où il y a de la réserve. Ça prend beaucoup de temps pour décevoir un jeune comme ça qui manifeste cela s'il n'y a pas de réponse.
Mais vous savez,
ou bien il y a une vraie réserve et vraiment il faut en faire énormément pour arriver à déboucher sur un climat de déception et d'abandon.
Mais non, vous savez, il y a une écorce. Alors, ça sera l'adolescent un peu mou, un peu traîne savate, etc. Mais derrière, il y a le bois dur. Et il faut qu'on touche le bois dur. Et puis, le phénomène de groupe, que ça soit au patronage du Père Chéreau, que ça soit dans le mouvement scout, le phénomène de groupe, quand il y a quelqu'un qui se laisse aller, il y a les autres pour le rattraper. Mais cette soif d'exigence, c'est le groupe, le conseiller religieux du groupe, c'est aller voir des moines ou des moniales. Et ça, cette exigence d'absolu, elle est réelle chez nos jeunes. Mais je crois que nous, les adultes, on a des complexes.
Je rajouterais à ce que disait Bernard, là, quelque chose qui me paraît très important dans l'éclosion des vocations. Là, on a parlé de la direction spirituelle, on a parlé de la confession, on a parlé des exigences, etc. Mais il faut aussi que les jeunes soient formés, éduqués à la volonté. Mm-hmm. Qu'on puisse repérer parmi eux ceux qui ont des capacités, ceux qui ont des critères objectifs de vocation. Alors pour ça, nous avons un moyen dans les patronages, c'est le jeu. Je crois beaucoup à la valeur éducative du jeu. On repère pendant un grand jeu de patro ceux qui sont mous, ceux qui sont au contraire, ceux qui ont de la volonté, ceux qui sont tricheurs, ceux qui n'acceptent pas des règles, ceux qui... Et ça permet pour les éducateurs et puis aussi pour le prêtre de voir les qualités humaines ou bien les défauts humains qui sont à corriger. Et ça, je crois que c'est très important que... un éveilleur de vocation, si je puis dire, quelqu'un qui est intéressé, parce que je crois que c'est ça le fait, c'est que beaucoup de prêtres ne sont pas forcément intéressés pendant des années à l'éclosion des vocations, il fallait pas en parler, mais ces qualités humaines de base sont absolument nécessaires. Alors ça, c'est un premier point.
Excusez-moi, mais pourquoi ne fallait-il pas en parler? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'il y avait une époque, il fallait que l'Église soit enfouie, soit c'était une espèce de kénose mal comprise, c'était vraiment...
De précisément, quelle époque?
Ben, c'est l'époque où je suis arrivé, moi, à Paris, en 1977-78, quand j'ai relancé ce patronage.
La mode, c'était le profil bas.
Il fallait fermer tout ça, il fallait absolument, fallait surtout pas parler de Dieu, fallait surtout pas s'engager, fallait pas, parce que c'était du prosélytisme, c'était du racolage, on allait contre la liberté des gens, et ben, on s'est bien rendu compte des limites de ce langage, qui est faux. Aller enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Père Malcan, je vous pose un petit peu sur la même thématique, la même question, et que peut-être j'ajouterai quelque chose. La disparition des petits séminaires, ça a changé quelque chose?
Je pense que ça a changé quelque chose. Moi, je ne me rends pas compte. Mais ce qu'on dit d'une certaine façon, que certaines écoles catholiques, à condition, pour reprendre le Père, qu'elles soient vraiment, qu'elles donnent la parole au Christ et que l'Évangile, comme dit Saint Paul, soit une source de salut aussi bien pour ceux qui croient que ceux qui ne croient pas, des Grecs comme des Juifs, refait ça un petit peu, entre guillemets. C'est un peu ça. Les petits séminaires, moi, je n'ai pas l'âge pour dire...
Pour les avoir connus, oui.
Pour avoir connu, vous savez qu'il y a des congrégations comme les Légionnaires du Christ qui font des petits séminaires, vous savez qu'il y a aussi des foyers des sacerdotaux qui existent, ou des jeunes, moi j'en connais quelques-uns qui sont au collège où je suis, qui ont participé, qui sont très ouverts, qui sont profonds, qui viennent à la messe chaque jour. C'est une chose qui compte énormément, effectivement, dans cette vie spirituelle. Je reviens là sur ce que disait le père à propos des... justement, des patronages. Je prends un exemple pour nous, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces jeunes ne sont pas habitués à donner d'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, pour les 300 premières de l'année prochaine, ils vont tous avoir un engagement au service des autres, en même temps que leurs études, les 300, parce qu'ils sont déjà un peu mûrs. S'ils ne font pas ça, ils ne développent pas leur personnalité, ils ne prennent pas des responsabilités. C'est ce qui leur manque par rapport à la soif d'idéal, d'absolu qu'ils ont.
Mais c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans nos patros. On repère très vite ceux qui sont les plus doués, pour leur faire prendre des engagements. Alors chez nous, on a notre terminologie, chez les religieux de Saint-Vincent de Paul, ils deviennent petits chefs, chefs de jeu, après animateurs, et puis ça termine par des dignitaires. On leur fait passer tous les examens aussi, des BAFA, etc. Mais ils ont des réunions particulières, ils ont des retraites spirituelles, ils sont suivis particulièrement, s'engager auprès de leurs frères. C'est un peu le système du scoutisme également.
Ça suggère que...
Et ça leur donne l'habitude de s'engager, de se donner.
Ça, ce que vous dites suggère qu'au fond, un travail d'intérêt général, ça ne doit pas être une peine, c'est un choix, non?
Oui, tout à fait, mais tout à fait. Et je pense que dans le scoutisme, comme dans les patros, c'est ce qui fait que y a des vocations, parce que on apprend aux jeunes à se donner, et puis on apprend aux jeunes, on forme les jeunes au niveau spirituel, et je pense que c'est les conditions qu'on réunit. En plus, nous, on a des jeunes de milieux très populaires, très très populaires, et de familles complètement, hélas, éclatées, et ils ont besoin souvent de pères de substitution, hein, comme je l'ai eu l'occasion de le dire à Radio Notre-Dame il y a de ça quelques années. On a besoin de pères de substitution, et nous remplissons ce rôle de...
Sans avoir à s'en excuser.
Ah ben, pas du tout, au contraire.
Voilà. Donc vous n'empiétez pas sur des libertés à la façon laïque de regarder
absolument
ça.
Pas, oui. Absolument pas.
Père Georges Collomb, je reviens vers vous, vicaire général des missions étrangères de Paris. Dans un autre bistrot de la ville, là aussi, avec un autre invité, nous relativisions le terme de prosélytisme. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une façon française comme ça de ne pas oser et de se sentir mal dès que le mot prosélytisme, parce qu'on affirme simplement une opinion qu'on a. Avec votre regard international, c'est franco-français cette histoire de prosélytisme, ça n'existe qu'ici. Et ailleurs, on s'assume tranquillement, sans que ce soit pour autant liberticide. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense, si vous voulez, que il faut. On a en France un petit peu le culte, enfin le culte, j'exagère, mais de l'autoflagellation et du complexe.
Très
un
vrai.
Peu trop, un peu trop, un peu trop exagéré, un peu trop forcé. Hein.
Et dans tous les aspects de la vie sociale, finalement, ou économique.
Oui,
ou,
oui. Sans doute, oui. On n'assume pas notre histoire, on n'assume pas notre identité, et dans notre Église, eh bien, nous avons aussi connu ce. C'est catastrophique. Hein, hein. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte d'être chrétien. Hein, et nous avons non seulement toutes les raisons, mais je dirais le devoir hein, de partager cette foi, puisque nous sommes heureux d'être chrétiens, puisque ça donne sens à notre vie. Et moi, on m'a posé la question, souvent, vous savez, quand on rentre de mission, moins aujourd'hui, mais dans les années qui ont suivi, par exemple, la période de la décolonisation, des années 75, des confrères me racontaient, ils étaient reçus comme des chiens dans des jeux de quilles, quand ils disaient qu'ils avaient été expulsés du Vietnam. Et mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Vous aviez qu'à rester tranquille, c'était lamentable, ils ont beaucoup souffert de cela. On entend moins ça aujourd'hui, hein. Mais c'est typiquement un mal français, pour reprendre un titre d'Alain Perfit, hein, d'un livre d'Alain Perfit, c'est un mal français cela, et c'est, grâce à Dieu, je crois qu'on est en train de franchir un cap, hein, qui fait qu'on est moins complexé, on n'a aucune raison de l'être. Moi j'ai jamais converti personne, comment ça? Les gens se convertissent. La conversion, c'est une démarche personnelle. Si j'ai pu être celui qui a ouvert la porte de l'Église, de l'Ecclésia, de la communauté chrétienne, à des jeunes qui ignoraient le Seigneur, qui n'avaient pas rencontré, eh bien, j'en rends grâce à Dieu. Mais dire que j'ai converti, c'est complètement faux. Ça, d'abord, ça serait prétentieux, et puis c'est stupide. La conversion, c'est forcément une démarche personnelle. Alors, votre question est pertinente, parce que vous voyez, dans des pays comme l'Inde, ou dans des pays comme l'Indonésie ou la Malaisie, vous voyez, où notre Église est tout à fait minoritaire, et où vous avez non pas une majorité de croyants musulmans pour la Malaisie et l'Indonésie, ou hindous pour l'Inde, mais une minorité très active de fanatiques, hostiles aux chrétiens, qui n'hésitent pas à utiliser de la violence contre eux, le crime. Hein? Alors évidemment, il faut être très prudent. Je pense par exemple à certaines ONG où nous envoyons des volontaires dans le nord-est de l'Inde, à Calcutta, et vous avez dans ces ONG des enfants de la rue, certains sont chrétiens, mais très minoritaires, la majorité sont des enfants hindous. hein, voire quelques musulmans, parce qu'il y en a aussi dans le Bengale notamment, hein,
ouais.
Évidemment, les responsables sont très prudents. Ils respectaient ces enfants-là, qui, même si les parents ne s'en occupent plus, viennent de milieux hindous, de milieux musulmans. Mais, c'est très intéressant, la prière, on respecte leur temps de prière, mais en même temps, on respecte le temps de prière des chrétiens. Chacun a sa prière. Vous voyez ? On respecte la religion de chacun. Et ça, c'est beau. On respecte la religion de chacun. Alors, c'est très...
Et pratique. Cela sans timidité, sans paralysie, comme ça, tranquillement, naturellement.
Et évidemment. Et les enfants qui sont là savent bien qui est le prêtre. Et quand on prie Marie, ils prient spontanément avec nous. Ils sont pas du tout forcés. Et ce sont pas des enfants de 3 ans, hein, ce sont des adolescents. Vous voyez ? Donc, évidemment, la foi aussi se transmet comme cela. Mais parce qu'ils découvrent finalement des gens qui s'intéressent à eux. Ils découvrent que des chrétiens, s'intéressent à leur sort. Et vous savez, c'est pas pour rien que dans de nombreux pays d'Asie, les minorités ethniques se sont converties. Parce qu'ils ont vu des missionnaires qui venaient de loin. Et puis, qui attachaient de l'importance à leur langue. Ils en écrivaient la grammaire et parfois le vocabulaire, des dictionnaires. Ils s'intéressaient à leur culture. Et puis s'intéresser à leur sort, à leur avenir, au salut de leur âme. Hein? Et c'est pour ça que des minorités ethniques entières se sont converties. Hein? C'est pas uniquement parce qu'on leur donnait du riz. Hein? C'est parce qu'ils ont vu que dans l'évangile et par les chrétiens, il y avait un respect de leur dignité d'être humain. Vous voyez ? Vraiment, ce temps de d'avoir peur de faire du prosélytisme, mais c'est ridicule. Je crois que on vit dans une société qui, à certains égards, est malade. Et nous, il ne faut pas nous rendre complices de ça. Alors, il faut jamais utiliser, bien sûr, les armes de la violence. Mais dans notre propos, il faut toujours être clair. Hein? En France, qui pourrait dire aujourd'hui en France que l'Église est agressive, alors on entend parfois des niaiseries, dès qu'on veut se montrer intéressant, alors on parle des croisades ou d'exemples similaires. Les gens qui en parlent d'ailleurs ignorent complètement généralement de quoi ils parlent, hein? Et tout ça pour cataloguer l'Église.
Alors... mon père, je vous interromps parce que l'abbé Olivier Foulon, qui a été ordonné l'année dernière à Nanterre, vient de nous rejoindre par téléphone. Vous m'entendez, mon père ?
Oui.
Je vous repose la question que je posais. Merci de nous rejoindre maintenant. Pour ne rien cacher, vous étiez en train de dire une messe et vous ne pouviez évidemment pas l'interrompre. La première question que j'ai posée aux invités d'aujourd'hui concerne le jour de leur ordination, précisément. Avec un an de recul, la force de ce jour, quel souvenir vous en gardez ?
Moi, je porte le souvenir d'avoir été à la fois un double souvenir, à la fois d'avoir été porté vraiment par l'Église, jusqu'à l'autel, par toute l'assemblée qui nous portait, par la prière, par l'affection, par le soutien, soutien dans la foi, soutien dans la vocation, si c'était possible qu'aujourd'hui on avait besoin, et puis ensuite, en même temps, cette grâce, cette transformation, nous-mêmes de pouvoir porter, je me souviens, cette prière. Prière eucharistique, de pouvoir porter nous-mêmes comme prêtres finalement l'assemblée auprès de Dieu, de pouvoir porter le monde. Et puis je me souviens aussi de cet accueil fraternel au milieu des par les prêtres, très, de façon très très chaleureuse.
Et par les fidèles aussi, parce que de nombreux appels sont lancés pour que le plus grand nombre de fidèles demain accompagnent les prêtres, les nouveaux prêtres ce jour-là. C'est important de sentir au-delà des autres prêtres, le poids des fidèles qui sont là et qui entourent.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe dans cette célébration est pour nous vraiment un signe de tout ce qu'on va vivre, un petit peu comme résumé, un petit peu toute notre vie de prêtre. Et donc c'est vrai que l'assemblée qui est là va pouvoir être le signe pour nous que nous ne sommes pas seuls pour notre mission, mais que nous sommes pour d'autres et avec les autres en collaboration.
Nous allons marquer une courte pause. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous appeler et participer à cette conversation. 0892 68 80 30, 0892 68 80 30.
Ciel vocation
sur Radio Notre-Dame. Voyage, que notre grand amour
chante de joie, chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles. Que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour. À cela dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer le chemin et forcer le destin à chaque carrefour.
Quand on n'a que l'amour, une chanson de Jacques Brel, mais dans la bouche des prêtres du groupe Spiritus Dei, qui connaît un succès tout à fait étonnant. D'ailleurs, dans ce bistrot de la vie, aujourd'hui, nous parlons d'évocation, mais un mot peut-être sur cette chanson et sur le succès de ce groupe. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes au courant, Père Géraud?
Oui, j'en pense que du bien.
Vous avez vu cette accumulation de triomphes comme
ben
ça?
Oui, mais ça me surprend pas. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait entre nous tout à l'heure. Les oui. hommes et les femmes de notre temps, ils ont besoin.
Ils sont là et ils demandent.
Ils ont besoin de spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Ils ont besoin. Et quand il y a quelqu'un qui leur propose, sous une forme moderne en plus, de parler de Dieu, l'amour de Dieu et la joie d'être aimé de Dieu, ben, ça marche.
Alors, je vais vous redonner la parole une seconde, Père Colomb.
Oui.
Dans l'amorce de ma question. D'où viennent et d'où viendront les prêtres de demain? Est-ce que c'est comme pour la médecine? On a l'impression finalement qu'en France, bon, beaucoup de médecins viennent du Sud. Alors, est-ce que c'est pareil pour les prêtres? Et est-ce que c'est grave? Parce qu'après tout, le message est mondial. Donc finalement, le fait que les prêtres en France soient des prêtres français, du moment qu'ils sont francophones, c'est la même chose que pour les médecins. Il faut qu'ils puissent communiquer et avoir une formation technique qui soit à la hauteur. Mais pour le reste, ça n'est pas tellement une question nationale. Ces prêtres qui viennent du Sud, qu'est-ce que vous diriez?
Oui, alors moi je connais davantage, vous savez, ceux qui viennent de l'Orient, surtout de l'Extrême-Orient, hein, mais pourquoi pas parler de ceux qui viennent du Sud? Oui,
ben, oui. Tout ce qui n'est pas nous, c'est le Sud, vous savez bien.
D'accord.
On voit les choses comme ça, hein. Regardez D'accord. les cartes dans nos livres de géographie, bon, la France est au milieu, et puis D'accord. après...
Bien. Alors voyez, pour répondre à votre question, nous avons eu, bien sûr, puisque nous sommes un vieux pays catholique, hein, une conception très européenne, centré de la mission. Et j'allais dire même, l'expression n'est pas très belle, mais franco-centré. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1918, eh bien, 2 missionnaires sur 3 étaient français dans le monde.
Oui.
Et donc, c'est quelque chose nous avons un bel héritage missionnaire, et quelque chose de magnifique. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne désespère pas, vous voyez, pour l'Église en France. Hein, pas du tout. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont pessimistes. Pas.
Alors, que des prêtres viennent du Sud, hein, pour reprendre votre expression, eh bien, on peut s'en réjouir. Et il faut simplement que ce soit des vocations missionnaires. Mais, alors, il y a plusieurs prêtres qui viennent du Sud en France, il y a des prêtres étudiants. Alors ils viennent faire leurs études et puis ils repartent, c'est normal, parce que leurs églises les ont envoyés pour cela. Et leurs églises locales ont besoin d'eux pour enseigner dans les séminaires, l'écriture sainte, la théologie, la philosophie, etc. Et ceux qui ont une vocation missionnaire, et vous avez vu au cours des 20 dernières années, on a vu l'émergence d'instituts missionnaires, par exemple pour nous en Asie, les missions étrangères de Corée, les missions étrangères de Thaïlande, fondées par un de mes confrères. Il y a au Vietnam, il y aurait un peu plus de liberté, il y a tout est prêt pour qu'il y ait un institut missionnaire qui pourrait envoyer des missionnaires dans le monde entier. Les Coréens, l'institut missionnaire de Corée, ils sont à peu près 80 prêtres, je crois. Et la moyenne d'âge doit être 35 ou 40 ans. Et ils vont en Afrique, ils vont en Papouasie, ils vont au Cambodge, vous voyez, ils vont dans plusieurs pays. Alors, il n'y a rien d'anormal à ce que des pays qui n'étaient pas chrétiens il y a 200 ans, et qui le sont aujourd'hui, eh bien, puissent envoyer des missionnaires, au contraire.
C'est et faire preuve d'un dynamisme peut-être même, et d'une fraîcheur un petit peu plus forte.
Oui, c'est un phénomène tout à fait naturel, c'est un signe de belle croissance de l'Église. Hein, quand une Église a grandi, bien, non seulement elle donne des prêtres et des religieuses et des religieux, hein, pour ses propres communautés, mais en même temps, comme l'Église est faite pour la mission, c'est important de rappeler ça, c'est pas la mission qui est faite pour l'Église, c'est l'Église qui est faite pour la mission. Autrement dit, nous sommes là pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Eh bien, il est bien normal que les Coréens et d'autres, et les Indiens, et les Vietnamiens, etc., et les Africains, et les Sud-Américains, puissent aussi partir dans d'autres pays, à condition, bien sûr, que cette vocation missionnaire, et c'est là où le discernement doit être fait, ils doivent partir selon les règlements de leurs instituts, soit ad vitam, soit pour une période déterminée, ils doivent avoir le désir de partir ad extra, de quitter leur pays, avec tout ce que ça implique alors là, d'enracinement dans le pays nouveau, d'efforts pour apprendre la langue.
Vous voyez que d'un point de vue chrétien, la mondialisation s'est assumée depuis 2000 ans finalement, c'est pas une, ça n'a rien d'une nouveauté par définition.
Exactement, et alors justement, la mondialisation dont on entend souvent parler, et qui est présentée comme créant beaucoup de problèmes, hein, délocalisations d'entreprises, etc., etc., enfin en tout cas en Europe, parce que là aussi ça mériterait un débat, vous savez, la mondialisation.
Oui, elle est plutôt bien vue dans vos voyages, là vous voyez des gens qui sont plutôt contents que la roue tourne en quelque sorte.
Eh bien évidemment, hein. Mais pour notre Église, l'universalité, la catholicité de l'Église, c'est quelque chose de merveilleux.
Oui, ça va de soi en plus.
C'est une condition de liberté de l'Église. C'est une chance inouïe. Hein. Les Églises nationales sont des Églises qui, la plupart du temps, sont des Églises soumises au pouvoir en place. Hein. Hein. Regardez bien tout le courant qu'il y a actuellement, même dans l'Église d'Angleterre. Hein. Tous les nombreux prêtres, pour des raisons diverses, hein, de l'Église anglicane, qui ont rejoint l'Église romaine. Il montre bien que cet accident de l'histoire qui a fait que l'Église d'Angleterre s'est séparée de notre Église ne repose sur aucun fondement théologique. Hein, et que c'est aujourd'hui, de nombreux chrétiens anglicans en sont bien conscients. Voyez. Alors, on pourrait parler d'autres exemples d'Églises nationales. Prenez par exemple en Chine. La prétention de certaines administrations chinoises, le bureau des affaires religieuses ou l'association patriotique de vouloir contrôler l'Église, c'est tout à fait incompatible avec la catholicité de l'Église. Et justement, c'est parce que l'Église est catholique qu'elle est forte et qu'elle est fidèle à l'Évangile et qu'elle ne servira jamais d'autres maîtres, d'autres dieux que notre Dieu lui-même.
Hein? Père Dominique Chéreau, tout à l'heure pendant la pause, vous disiez que la solitude est quelque part l'ennemi du prêtre en quelque sorte, et que le fait d'avancer d'une manière en ligne comme ça et de ne pas être isolé est quelque chose de très important. Bon, peut-être que dans l'hésitation quelquefois à répondre à un appel, il y a cette image du prêtre isolé, solitaire, comme ça se produit en agriculture, vous savez, l'agriculteur tout seul, etc., personne ne veut de lui, il ne trouve pas d'épouse, et ainsi de suite. Bon, et toutes ces images-là de solitude, d'église qui ferme, ou ce prêtre qui doit assumer la responsabilité de plusieurs paroisses, ou qui est réduit à la dimension de distributeur de sacrements, un petit peu comme un DAB, là, les gens arrivent avec une carte, et puis il en sort un baptême ou un enterrement. Bon, cette solitude, c'est l'ennemi, quoi. Il faut que l'Église se rassemble.
Alors, personnellement, mon histoire à moi, je n'aurais jamais pu, je pense, c'est pour ça que j'admire les prêtres diocésains, je n'aurais jamais pu être prêtre diocésain. À cause, justement, de cette solitude qui était la leur, surtout dans les campagnes, ça s'est bien accentué depuis ma jeunesse, bien sûr, comme il y a moins de prêtres. C'est pour ça que je suis rentré dans la vie religieuse. J'ai été attiré par la vie religieuse, et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de mes amis prêtres, ou de jeunes prêtres dont je m'occupe aussi, sont attirés de plus en plus par une vie fraternelle. Alors il y a des instituts ou bien des prêtres diocésains, j'en connais plusieurs, par exemple dans le diocèse de Nantes, qui se rassemblent et ils vivent un style de vie communautaire beaucoup moins fort qu'une congrégation religieuse, si vous voulez. Mais c'est la même idée, c'est que on vit en famille et on a besoin de cette vie de famille. On a fait le don de nous-mêmes par le célibat ou le vœu de chasteté, mais on a besoin de cette vie de famille pour pouvoir rire ensemble, prier ensemble, échanger ensemble, et puis nous soutenir l'un l'autre. Ça fait partie, et on est beaucoup plus efficace pour la mission ensuite.
Abbé Olivier Foulon, je rappelle que vous avez été ordonné l'année dernière, donc vous faites vos premiers pas avec ce nouveau statut. Hein. J'utilise un langage extrêmement laïque, mais vous ne m'en voudrez pas. Elle s'est écoulée comment, cette première année? L'atterrissage s'est bien passé, en quelque sorte?
Oui, c'est vraiment une année de découverte, à la fois découverte du ministère. On fait beaucoup de choses pour la première fois, que ce soit dans les sacrements, ou aussi évidemment, il faut prendre aussi l'apprentissage de la parole en public, de gestion de groupe.
Parce que maintenant, les paroissiens, ils sont plus virtuels, ils sont là, ils sont les vôtres.
Ils sont les miens, exactement. Alors c'est vrai que je suis dans une grande ville, il y a 78 000 habitants, il y a 4 paroisses, donc c'est vrai qu'il faut tout un temps de découverte de cette très grande réalité, avec beaucoup de paroissiens qui sont très engagés, et donc on essaye de les connaître, de les accompagner.
Bernard Riviolet, je reviens un petit moment vers vous, et à propos du scoutisme. Tout à l'heure, avec le père Georges Collomb, des vicaires généraux des missions étrangères de Paris, bon, on soulignait le fait, il disait, une église, ça doit rester une église, parce que dès qu'on met le mot national derrière, ça tourne pas très bien. Bon, dans le scoutisme, on n'a pas cette préoccupation de vouloir faire des prêtres français pour un public français avec le coq brodé sur le revers du veston, je veux dire, ou bien il y a quand même culturellement ce côté-là. C'est ouvert à tous.
Alors,
et vous transmettez un message mondial ou un message national?
Bon, bah, pour les scouts d'Europe, il est plutôt européen.
Par définition.
Par définition, donc ça c'est l'intuition des fondateurs. On s'engage quand même à devenir fidèle à Dieu, à notre patrie et à l'Europe. Donc on met bien les choses dans
l'Europe. Mais en même temps, l'Europe ne s'arrête pas strictement au Bosphore. Ça peut aller un peu plus loin, non?
Ça, la définition de l'Europe, on l'a toujours pas donnée.
Elle n'est pas
claire. On l'a toujours pas donnée. Non, on est ouvert à... Enfin, je pense que la dimension européenne, en tout cas, est de plus en plus marquée dans le mouvement. Des grands rassemblements, comme en Pologne... montre que on partage notre foi. Moi, je vois des routiers, par exemple, les routiers du Val-de-Marne sont partis en Italie, accueillis par un clan routier à Turin, pour aller se recueillir devant le linceul. Bon, bah, cette dimension, ils la vivent. Maintenant, moi, la question que je me pose, et ça assez librement, c'est que je vois dans le Val-de-Marne, depuis 30 ans, il y a des groupes scouts d'Europe, et ce qui me préoccupe un petit peu, et je crois que ça préoccupe aussi un petit peu mon évêque, c'est de voir qu'on n'a qu'un seul prêtre diocésain sur les 13 vocations qu'on suscitait dans les groupes. Donc je pense que on devrait aussi se poser la question de savoir pourquoi ces jeunes qui sont attirés par la vie religieuse rentrent dans des communautés, rentrent dans des monastères où sont prêtres Saint-Vincent de Paul, communauté Saint-Martin ou autre.
Et quand là, vous dites qu'il faut se poser la question, alors évidemment vous c'est plus facile, vous êtes laïque, hein, mais je vais quand même faire tourner la question pour avoir les autres points de vue. Ne vous inquiétez pas, d'ailleurs on va peut-être la faire tourner tout de suite. Allez, les communautés, mon père, est-ce qu'on oppose ça au diocèse? Qu'est-ce qui se passe là?
Ben surtout pas, c'est deux vocations différentes normalement.
Mais pourquoi il y en a une qui semble attirer plus que l'autre par les temps qui courent, hein, ou alors c'est une impression ou un écho de presse qui n'est pas fondé? Dites-moi ce que vous en pensez.
Moi ce que j'en pense c'est qu'il y a des modes. Je pense qu'après la grande crise de l'après-concile et de l'avant-concile, qui n'est pas due au concile, je répète, mais qui était liée quand même à... C'est une grande crise qui a eu lieu à cette époque-là.
Ah, peut-être que s'il y a eu un concile, d'ailleurs, c'est pour faire face à un état
voilà,
de crise.
Voilà, exactement. Oui. Donc, après cette grande crise, il y a eu un départ d'un nombre de prêtres qui est parti. C'est impressionnant quand on voit les chiffres. Plus personne ne rentrait dans les séminaires parce que, bon, la formation était devenue, pas forcément de grande qualité. Et beaucoup de jeunes à ce moment-là, faut pas l'oublier, venant du scoutisme ou venant d'ailleurs, ils ont cherché des endroits où la formation était sérieuse. La formation était solide au point de vue philosophique, au point de vue théologique, au point de vue spirituel, où on avait la foi catholique. et ils sont rentrés dans ces nouvelles communautés qui se sont fondées à, grosso modo, à cette époque-là. Donc, ça a créé...
Donc, les années 60.
Oui, 60, 70, 70, et toutes ces grandes communautés. Vous savez, les jeunes sont attirés par les jeunes aussi. Quand ils voient une communauté de jeunes, ils ont envie de rentrer dans une communauté de jeunes. Mais ces communautés de jeunes commencent à vieillir. Et évidemment, attireront peut-être moins. Alors, moi, je pense que aujourd'hui, quand on a
vu... Vous dites ça avec un air gourmand, je me demande pas, j'étais en train de me demander si vous n'attendiez pas, justement, que la jeunesse passe pour essayer de rééquilibrer les choses.
Non, mais moi, je pense sincèrement, quand on voit, je sais pas si vous avez regardé un petit peu à Rome ce qui vient de se passer avec ces 12 000 prêtres qui étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre, on voyait quand même énormément de jeunes prêtres, qui avaient l'air heureux d'être prêtres, et je pense que c'est, il faut que les évêques se rendent compte que c'est en ce qu'ils essaient de faire d'ailleurs avec une formation maintenant beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus solide, avec cette année de propédeutique, avec ces et puis une vie dans les séminaires beaucoup plus fraternelle et en même temps engagée. Ils vont attirer, ça va attirer. Quand on voit tous ces jeunes prêtres du diocèse de Paris avec lequel je collabore, puisque aussi bien dans mon doyenné, mais où il n'y a pas tellement de jeunes prêtres, mais quand même, je peux vous dire que ils sont rayonnants. Et comme ils sont rayonnants, s'ils ont le temps de s'occuper des jeunes, si on leur laisse le loisir de s'occuper des jeunes, dans des aumôneries de lycée, ou bien dans les mouvements scouts ou dans les patronages, si ils ont le temps d'être tout entier consacrés aux jeunes, il y aura une éclosion.
Forcément les conséquences. Forcément. Et oui, parce que rayonnant, c'est le contraire de rébarbatif. Ben voilà, donc ça a des conséquences. Abbé Malcor, même question. Communauté diocèse, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que les gens ont besoin de redécouvrir la vocation diocésaine, différente des religieux, comme disait Père Dominique, et l'enthousiasme que ça. Je crois que ça, c'est le plus important. Certains ne se rendent pas compte, et c'est cet enthousiasme qu'il faut manifester, bien sûr, qu'il faut vivre. C'est vrai que je pense à, il y a 25 ans, l'initiative du cardinal Nucinger, la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville. Le père Colomb rappelait que un prêtre, c'est missionnaire de toute façon, même si on souhaite des prêtres français pour la culture française et pour en partie certains lieux où on se dit que peut-être des Français seront plus adaptés comme prêtres. Je pense c'est de redécouvrir la beauté, l'enthousiasme de la vocation diocésaine qui est complémentaire bien sûr avec la vocation religieuse, c'est très bien dit. Pas une question de solitude, c'est une question de mesurer, il faut demander aux jeunes prêtres qui viennent découvrir ce ministère, la beauté, l'enthousiasme que ça peut être. Et ce qu'on disait aussi pour les jeunes, c'est qu'il faut qu'il y ait des prêtres qui soient disponibles pour eux.
Vous entendez, abbé Olivier Foulon, ça n'est pas une question de solitude, c'est une question d'enthousiasme. Vous m'entendez toujours?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, comme quand on est un prêtre diocésain, on est sur une paroisse, et alors on n'est pas lié à des personnes de spiritualité particulière, mais c'est aussi des communautés religieuses, on peut avoir parfois aussi des paroisses en charge. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose vraiment d'universel. On a aussi tous ces sacrements, les baptêmes, les préparations au mariage, les funérailles. Donc on a à la fois des personnes très croyantes, et puis d'autres qui s'avancent vers l'Église. Et c'est vrai que ça nous donne une grande universalité. Et je voudrais souligner je pense qu'il y a une réalité du ministère qui est assez différente, peut-être dans certains endroits, peut-être dans des campagnes où on peut parler de solitude. Moi, où je suis, on a une équipe de 4 ou 5 prêtres, qui sont diocésains, qui ne se sont pas choisis eux-mêmes, et qui partagent chaque midi un office, qui mangent ensemble, et qui partagent vraiment la mission pour une grande ville. Donc voilà, c'est pour dire que cette vie communautaire n'est pas aussi forte, bien entendu, qu'une vie religieuse, elle existe.
Abbé Olivier Foulon, une toute dernière question avec une réponse très courte, s'il vous plaît, car nous sommes presque au terme de l'émission. La campagne de pub de l'Église pour les vocations, il y a quelques semaines, vous l'avez reçue comment? Elle vous a concerné? Enfin, je veux dire, elle arrive trop tard pour vous, puisque le problème était réglé, mais vous avez pris le problème comment? Vous avez, l'image du prêtre qui était renvoyée par cette campagne, c'est celle que vous voyez dans la glace le matin en vous rasant?
Oui, je pense que il y a une joie. Je pense, je crois que c'est pas une campagne de pub qui va bien entendu.
On n'est pas faite pour ça. Hein. C'était plus une affirmation qu'un recrutement.
Tout réglé. Après, on n'a pas forcément eu beaucoup d'écho, mais c'est vrai que ça fait réfléchir aux gens. Et c'est, je crois que c'est surtout que ça étonne quoi de voir le prêtre au milieu du monde dans des médias. Je crois que c'est un petit peu ça. Ça suscite un étonnement. Nous dire c'est un prêtre. L'Église est vivante encore aujourd'hui. Je pense que c'était l'idée de cette campagne.
Bernard Ribiollet, dans le milieu du scoutisme, on l'avait vu passer cette campagne?
J'ai pas fait attention, mais en revanche, il y a des campagnes de publicité qui m'ont titillé. C'est, je crois que c'était la communauté de l'Emmanuel qui avait fait une publicité sur un jeune qui rêvait d'être pompier, qui rêvait d'être cosmonaute, et puis en fait, on le voyait devenir prêtre. Et je trouvais que cette publicité, elle méritait de passer au niveau national parce qu'elle était excellente. Il rêvait d'espace, il rêvait d'aider les autres.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Nous arrivons au terme de ce bistrot de la vie. Rendez-vous bien sûr sur l'antenne demain à partir de 9h30 pour poursuivre en direct à Paris, en tout cas pour ceux qui sont à Paris. Merci Père Colomb, merci Père Foulon. Fin du bistrot de ce bistrot de la vie. Rendez-vous lundi avec le retour d'Anne Gavini.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Anne Ponce, directrice de la rédaction de Pèlerin, un message pour vous.
Découvrez le nouveau Pèlerin, l'hebdomadaire d'actualité catholique et familiale. Une nouvelle formule ouverte à tous, avec chaque semaine son nouveau supplément Croire Plus pour mieux vivre sa foi. Cette semaine, notre enquête sur les retraites est ce qui nous attend vraiment. Des réponses claires avec des exemples précis pour comprendre ce qui se prépare.
Avec Pèlerin, la semaine a du sens. En vente chez votre marchand de journaux.
Byzance, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. L'œuvre d'Orient vous invite à découvrir la richesse et la diversité des églises orientales. Exposition « La grande aventure des chrétiens d'Orient » à la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, sur le parvis de la Défense, métro ou RER Grande Arche, du lundi au vendredi de 8h à 18h30 jusqu'au 30 juin. Plus d'informations sur le site oeuvre-orient.fr.
Dieu ne t'en prie.